France Inter. Un point sur les informations avec Éric Delvaux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, la réforme du concours d'enseignants, un bac plus 3 suffira pour passer le concours. Le syndicat SNES-FSU dénonce un passage en force de ce qui n'était qu'un projet. Une forme de 49-3 éducatif, selon le syndicat, vous l'entendrez. Un cessez-le-feu jusqu'à dimanche soir en Ukraine, à la demande de Vladimir Poutine, à l'occasion de la Pâque orthodoxe, le chef du Kremlin appelle Kiev à faire de même. Un Américain à Rome, le vice-président J.D. Vance, reçu par le numéro 2 du Saint-Siège. L'ultra-conservateur américain ne désespère pas de rencontrer également le pape François. Nous serons en direct à Rome avec Bruno Duvic. Et puis en rugby, les Françaises font un pas de plus pour remporter le tournoi Destination. Victoire cet après-midi face aux Italiennes, mais une victoire laborieuse lors de cette avant-dernière journée. Et puis le temps de demain, Céline Dacosta, il y aura des pluies et des orages sur l'ouest.
Oui, des orages marqués dès le matin des Pays de la Loire vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Pas assez d'enseignants en France, et bien qu'à cela ne tienne, le gouvernement veut susciter des vocations en réduisant le nombre d'années d'études. Un bac plus 3 suffira avant de passer le concours, et non plus un bac plus 5. Le décret est paru aujourd'hui au Journal officiel. On va en voir les détails dans un instant. Une réaction avant cela. Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU, elle regrette que le texte soit déjà plié, alors que les réunions n'étaient pas encore terminées. Avec la ministre Elisabeth Borne.
On est quand même très perplexe face à cette réforme, d'autant plus que là, la ministre avance très vite et quelque part, elle passe aussi en force. Le décret est publié aujourd'hui, alors même que les discussions avec les organisations syndicales ne sont pas terminées. Publier un texte de cette importance comme ça en plein week-end et par ailleurs refuser de le mettre au vote, ça a quand même sur la forme une furieuse allure de 49-3 éducatif. Aujourd'hui, le ministère n'est pas en mesure de nous dire ce qui va relever de l'approfondissement de la discipline. Par exemple, est-ce qu'on va aller plus loin pour apprendre des connaissances en histoire, en géographie, en français, en mathématiques, selon la discipline qu'on va enseigner, ou est-ce qu'on va être plutôt sur de l'apprentissage du métier? Tout ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, on est vraiment sur une forme de recrutement au rabais, de régression dans la maîtrise de la discipline, et tout ça nous fait craindre quand même pour la façon dont nos collègues arriveront ensuite dans les classes avec ce faible bagage en termes de formation.
La secrétaire générale du SNES-FSU avec Benjamin Recouvreur. Cette réforme du concours des enseignants sera mise en œuvre dès l'année prochaine. Un premier concours rénové est donc prévu au printemps 2026. Luc Chemla, on voit avec vous le détail de cette réforme.
Le concours de recrutement aura désormais lieu plus tôt, c'est-à-dire dès Bac plus 3. Les candidats pourront donc s'y mesurer juste après avoir eu leur licence, alors qu'actuellement il faut être à Bac plus 5 et un master en poche pour le passer. Ce changement va se faire progressivement. Dès 2026, les deux concours vont d'abord coexister pour ne pas en pénaliser certains, et à partir de 2028, l'examen qui était organisé en fin de master aura définitivement disparu. À noter que pour préparer le concours du premier degré, soit les écoles maternelles et élémentaires, une licence spécifique sera mise en place dès l'an prochain. Une fois cette étape réussie, les futurs enseignants suivront une formation professionnalisante en 2 ans et seront payés 1 400 € net, puis 1 800 €. Il y a toutefois une contrepartie, ils devront s'engager à exercer le métier de professeur pendant au moins 4 ans. Toutes ces mesures ont donc un objectif, attirer davantage de candidats vers le métier d'enseignant après d'autres réformes qui n'ont pas eu l'effet escompté.
Sans trop de surprises, Marine Tondelier vient d'être réélue dès le premier tour au poste de secrétaire nationale des écologistes. Elle a fédéré aujourd'hui 73% des votants, moins d'un militant sur deux a voté. Marine Tondelier, à qui il est reproché parfois de mettre à l'écart de potentiels rivaux. Des critiques qui ne l'empêchent pas, ce soir, de saluer sa victoire.
C'est des résultats qui font vraiment plaisir. Et donc nous, notre état d'esprit, c'est qu'on est prêt, en fait. Donc nous sommes là, devant vous, au service de l'intérêt général des électeurs de gauche. Et je pense qu'ils le savent, ils comptent sur nous. Moi, on m'arrête tous les jours dans la rue, dans le métro, partout, pour me dire, vous là, on se rappelle de vous, et on compte sur vous parce qu'on sait que vous lâcherez pas. Notre ligne, elle est claire, Nous voulons les alliances les plus larges possibles partout, parce que ce que je vous ai évoqué pour les élections nationales, c'est la même chose pour les élections locales.
Marine Tondelier avec Julien Nenni. La députée Sandrine Rousseau, qui briguait un poste au sein du bureau politique, n'a pas réussi à y rentrer. Et le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui vise un poste de porte-parole, devra passer un second tour. À Viry-Châtillon, dans l'Essonne, le couvre-feu pour les moins de 13 ans entrera en vigueur ce soir de 22h jusqu'à 6h demain matin. Aucune amende à la clé, mais beaucoup de prévention. C'est ce que précise le maire centriste Jean-Marie Villain, qui refuse d'ailleurs de parler de couvre-feu.
C'est soit la police municipale, soit la police nationale, puisqu'ils sont toutes les deux concernés par cet arrêté, et donc soit les emmener au commissariat pour que les parents viennent les chercher, soit éventuellement en mairie ou chez eux, tout simplement. Ça permet au passage d'évoquer le sujet avec ses parents. C'est plutôt une bonne chose, c'est une vertu pédagogique. C'est cet élément-là que je veux mettre en avant par la prise de cet arrêté. C'est pas autre chose. Mais je pense que à 12-13 ans, on n'a pas sa place dehors à partir de 22h si on n'est pas avec ses parents. Je parle souvent d'école de la rue, qui est à mon sens une mauvaise école. Celle qu'il faut suivre, c'est celle de l'éducation nationale, c'est celle des enseignants, celle des parents, pourquoi pas d'ailleurs, mais pas celle de la rue, qui est toujours source de conflits, source d'autre chose que quelque chose de bienveillant pour les enfants.
Et toujours l'inquiétude pour un ado qui a fugué dans le passé. Un appel à témoins est lancé pour disparition inquiétante. Un garçon de 12 ans, il a disparu dans le secteur de Poitiers-Buxerolles, dans la Vienne, en se rendant chez son père. C'est la maman de l'adolescent qui a donné l'alerte jeudi.
France Inter, Éric Delvaux.
En Russie, c'est un peu la surprise de Pâques, la surprise de la Pâques orthodoxe, ce cessez-le-feu de quelques heures en Ukraine, ordonné par Vladimir Poutine. Depuis un peu plus de 2 heures maintenant, et jusqu'à demain soir, 23h heure française, la Russie justifie cette pause par des considérations humanitaires, mais Volodymyr Zelensky dénonce au contraire une tentative de jouer avec les vies humaines. Et pour le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, cette trêve illustre surtout l'ancrage traditionnaliste de Vladimir Poutine.
Il faut savoir que cette année, pour une fois, la Pâque orthodoxe correspond à la Pâque catholique. Et donc, d'un côté comme de l'autre du front, demain, c'est le jour de Pâques. Donc je pense que le président Poutine a voulu à la fois marquer devant la population russe combien il était conforme à son idéologie, mais en même temps, je pense qu'après la réunion de Paris, où à la fin de cette réunion, les Américains ont marqué leur impatience de ne pouvoir avoir aucun résultat du côté de la Russie, il veut aussi marquer un signe qu'il croit être un signe de bonne volonté. Alors que l'Ukraine avait demandé un cessez-le-feu de 30 jours, depuis longtemps. Et ceci n'a pas été accepté par la Russie. Donc pendant 24 heures, c'est vraiment se moquer du monde.
Et toujours en ce week-end pascal, le très religieux vice-président américain Jed Evans a tenté aujourd'hui de recoller les morceaux avec le Vatican. Ce catholique converti, figure de proue d'un christianisme ultra-conservateur, a rencontré ce matin le secrétaire d'État du Vatican après avoir vu Giorgia Meloni hier. Bonsoir Bruno Duvic. Vous m'entendez, Bruno ?
Parfaitement.
En direct de Rome. Ce n'est pas un simple pèlerin qui est à Rome ce week-end.
Non, il vient prier, mais aussi discuter et marquer le terrain. Ainsi se poursuit le week-end de Jed Evans à Rome. À l'église, Evans était avec femme et enfant hier soir à Saint-Pierre pour le Vendredi Saint. Mais à ce stade, pas de rencontre officielle avec le pape, hostile à la politique de Trump. La convalescence de François est une excuse présentable. C'est donc le numéro 2 du Vatican qu'a vu ce matin, le numéro 2 de la Maison Blanche. L'escorte, une quarantaine de voitures noires, a fait son effet dans le décor baroque du Vatican. Sourire sur les photos, compte rendu cordial qui n'efface pas les désaccords. Plus d'entente sur l'Ukraine. Au Saint-Siège, la recherche de la paix prime sur tout le reste. C'était avant l'annonce de Vladimir Poutine. Et par ailleurs, Vance sait que l'aile conservatrice de l'Église reste puissante et compte sur l'appui américain. Mais c'est dans la Rome civile que le chrétien nationaliste a trouvé le terrain le plus facile. Hier, entretien très chaleureux avec Giorgia Meloni, plus que jamais l'allié préféré après sa visite à la Maison Blanche jeudi. Si l'Union européenne est globalement réfractaire à l'administration Trump, à Rome, ce week-end, Jed Evans pose quelques jalons pour des temps plus cléments.
Bruno Devic, en direct de Rome. C'était il y a un mois, jour pour jour, la police turque arrêtait le maire d'Istanbul pour corruption et terrorisme. Ekrem İmamoğlu est le principal rival du président Erdogan. Le Parti républicain du peuple, le CHP, dont est issu le maire d'Istanbul, dénonce un putsch en vue de la prochaine présidentielle turque. Et depuis cette incarcération, les opposants au régime turc organisent des rassemblements deux fois par semaine. Et bien aujourd'hui, c'était à Yozgat, ville d'Anatolie centrale, considérée comme l'un des bastions du régime d'Erdogan. À Ankara, reportage Anand Lauer.
Özgür Özel, le dirigeant du CHP, est entré dans Yozgat au volant d'un tracteur suivi de dizaines d'autres klaxons hurlants conduits par des agriculteurs. L'image et le choix de Yozgat n'ont rien d'anodin. Au plus fort des rassemblements contre l'arrestation des Ekrem İmamoğlu, cette région conservatrice avait été témoin d'une scène étonnante, une manifestation d'agriculteurs en faveur du maire d'Istanbul sur leur tracteur, dans une ville où le CHP n'a récolté que 2% des voix au municipal de l'an dernier. Le principal parti d'opposition veut faire de Yozgat un symbole. Le CHP ambitionne non seulement de faire durer la contestation, mais aussi de l'étendre à toute la Turquie, en particulier aux provinces qui semblent acquises au président Erdogan. À Yozgat, ils étaient des milliers pour écouter Özgür Özel.
Nous aurions pu faire ce meeting à Antalya ou dans un autre bastion de notre pays. Mais si nous sommes ici à Yozgat, cette ville qui a voté pour toi, Erdogan, à 75% à la dernière présidentielle, c'est parce qu'elle dénonce aujourd'hui ce putsch contre les urnes, contre cette junte que tu as mis à la tête du pays. Preuve, Erdogan, que nous sommes au bon endroit.
Prochain rendez-vous pour l'opposition, le 23 avril, un jour de fête nationale en Turquie, pour une grande marche à Ankara jusqu'au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République. Un endroit Ankara, RFI pour France Inter.
Encore une vidéo d'un otage israélien en vie, vidéo diffusée par la branche armée du Hamas. Selon les médias israéliens, il s'agit d'Elkana Bobot, cet homme enlevé lors de l'attaque du 7 octobre 2023. La date de l'enregistrement de la vidéo n'a pu être précisée. Il s'agit de la troisième vidéo mettant en scène ce même otage. La précédente date du 29 mars. Le sport avec cette équipe de France de rugby peu convaincante cet après-midi lors de l'avant-dernière match du tournoi des Six Nations, c'était à Naples. Les Françaises ont été menées au score en début de partie, mais elles ont finalement battu les Italiennes 34-21. Une victoire laborieuse, reconnaît la Toulousaine demi de mêlée Pauline Bourdon-Sensus.
C'est toujours des matchs compliqués contre l'Italie, elles ont un peu le même style de jeu que nous. Et c'est vrai qu'on s'est un peu fait piéger en première mi-temps où elles ont beaucoup joué et nous on a été aussi très indisciplinés. Et voilà, on a su rebondir en seconde mi-temps. La victoire est là, mais si on veut basculer la semaine prochaine sur l'Angleterre, il va falloir vraiment basculer et vraiment faire 80 minutes pleines parce que sinon ça va être compliqué la semaine prochaine.
Et en football, la Ligue des Champions, voilà les Lyonnaises en ballotage favorable après leur courte victoire en demi-finale aller à Arsenal, match remporté par les Françaises, donc 2-1. Sur la pelouse de l'Emirates Stadium, les Lyonnaises recevront les Londoniennes dans une semaine en match retour. Et puis en Ligue 1 de football, le PSG s'est imposé cet après-midi 2-1 contre le barragiste Le Havre, ce qui permet aux Parisiens d'être toujours en course pour remporter la saison invaincu. Week-end Pascal, je vous l'ai dit dans ce journal, week-end Pascal avec demain donc la traditionnelle chasse aux œufs, chocolat noir, au lait ou praliné. Mais avec la flambée des prix du cacao, les œufs en chocolat, les poules et autres lapins vont revenir chers cette année, notamment à Bruxelles, souvent décrite comme la capitale du chocolat. Reportage de notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Herry.
Chez le chocolatier Pierre Marcolini, c'est un œuf en chocolat de 6 kilos à la coquille marbrée qui trône dans l'entrée et accueille les gourmands ce week-end, comme Bertrand.
Je viens récupérer le maximum de chocolat pour faire plaisir à mes 3 enfants.
Le 39e client de la matinée est frappé par une chose.
Ça a clairement augmenté.
Clairement augmenté avec des premiers prix pour les coffrets de Pâques à 23€ pour 12 chocolats.
Après, ça reste un plaisir et encore plus à Pâques. Donc on ne regarde pas trop les prix ce week-end-là.
Car la qualité est effectivement au rendez-vous.
Vous allez me faire goûter quoi là ?
Chocolat au lait avec cajou.
Ouais, c'est pas mal du tout.
Concernant les prix, Joël, la responsable du magasin, explique qu'elle ne peut rien contre les intempéries en Afrique de l'Ouest qui ont fait bondir le coût du cacao.
Tout a augmenté, le cacao, le sucre, le beurre de cacao. Nous, on essaye de maintenir une certaine gamme de prix. On ne peut pas offrir des coffrets à 50€, c'est quasiment impossible. Donc on réarrange un peu la gamme, en fait.
En Belgique, une tablette de chocolat noir coûte ainsi 38% de plus qu'il y a un an. Dans ce contexte, un magasin concurrent situé non loin affiche une promotion. Un œuf offert pour 2 achetés, soit 20€ pour 39 petits œufs. Anne-Marie vient d'en profiter.
Oui, parce que j'ai beaucoup de petits-enfants. Hein.
tourmente alors. Je peux pas faire sans, hein. Il faut que je siffle la tradition, hein.
Avec l'inflation, même chasser les œufs va finir par devenir un luxe, sourit-elle. Bruxelles, Jean-Jacques Héry, France Inter.
Ah, ce chocolat en train de devenir un luxe. Le temps.
La météo. Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le ciel va rester bien agité sur l'ouest du pays demain.
Oui, parce qu'on va retrouver notre perturbation d'aujourd'hui vers les pays de la Loire, le Bordelais, dès le matin où les orages éclateront avec un vent de nord-ouest qui va bien rafraîchir l'atmosphère. On attend également de bons cumuls de pluie sur le Poitou et quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées. Perturbation qui se décalera vers le centre, le bassin parisien et les régions du nord en cours de matinée, puis qui gagnera à l'après-midi le nord-est. Ça sera également instable sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse avec des orages dans l'après-midi. Pour tous les autres, plus calme, avec même quelques éclaircies.
Et pour les températures?
Globalement, on baisse le matin entre le Massif central et le Languedoc-Roussillon, une moyenne de 4 à 8 degrés, 10 à 15 pour les autres. Et puis dans l'après-midi, la moyenne ira de 12 degrés à Bordeaux jusqu'à 18 à Strasbourg, avec une pointe à 21 degrés pour Perpignan.
Les prévisions de Céline Dacosta.